C'est lié avec vraiment une histoire personnelle parce que, comme beaucoup savent, j'étais pasteur pendant 25 ans, bien pasteurisé. Et puis, j'ai été invité à Borin, en Belgique, en 1995, pour animer une session du renouveau. Et là, j'étais le seul pasteur évangélique qui était là parmi 5500 catholiques. Et Monseigneur Léonard était là en ce moment-là. Et j'avais jamais rencontré un évêque. Je ne connaissais pas des évêques. Et j'étais très, très impressionné par, et il ne le dirait pas, mais par son humilité, par son écoute, le fait qu'il parlait avec moi en face à la table, et même il m'a conseillé quelque chose dans ma vie personnelle. Et ça a débloqué quelque chose dans ma vie personnelle. Et grâce à des prières de tous ces catholiques et de la délicatesse et la profondeur de spiritualité de mon frère, Monseigneur Léonard, je suis catholique aujourd'hui. Alors, écoutons bien Monseigneur Léonard.
Donc, nous accueillons donc Monseigneur Léonard, qui est évêque de Namur et membre de la Commission théologique internationale. Donc, il va nous parler de la compassion de Dieu pour son peuple et nous allons le confier à la Vierge Marie.
À vrai dire, j'étais membre de la Commission théologique internationale, car quand on est nommé évêque diocésain, on est prié de quitter cette commission pour qu'elle soit une commission théologique et pas progressivement une commission épiscopale. Et merci de l'aimable attention de notre cher Richard, que j'ai eu beaucoup de bonheur à retrouver. On m'a donc proposé comme thème de cette intervention « Dieu a compassion de son peuple ». Et en réfléchissant à ce thème, je me suis souvenu de mes études de théologie à Rome, il y a déjà très longtemps, de 61 à 65, et on y apprenait, quand on étudiait le Christ, la Christologie et la Trinité, on y apprenait la formule utilisée par des moines scythes, S-C-Y-T-H-E-S, qui disaient « Unus ex Trinitate » par sous-est, un de la Trinité a souffert. C'est ce qu'on appelle, en termes savants, en théologie, la communication des idiomes. Je traduis, les propriétés de la nature humaine de Jésus peuvent être rapportées au sujet divin que Jésus est. Il est le Fils de Dieu. Donc, quand Jean, au chapitre 11, verset 35, dit « Et Jésus pleura », on peut dire, en toute rigueur de terme, « Dieu a pleuré ». Bien sûr, il n'a pas pleuré par sa nature divine, mais grâce à sa nature humaine. Mais le sujet de cette action, c'est le Fils de Dieu. On peut dire « Dieu a pleuré ». C'est ça, la communication des idiomes. Et donc, on peut dire, un de la Trinité a souffert, puisque Jésus a subi la passion et est mort en croix. Mais un père de l'Église, je ne suis plus sûr que ce soit Origène, a déclaré, et c'est une formule qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lue pour la première fois, Dieu a compassion. Dieu lui-même n'est pas impassible. Dire que puisque Jésus a souffert la passion, on peut dire un de la Trinité a souffert, c'est déjà très très beau. Mais dire que Dieu lui-même, dans son éternelle Trinité, que Dieu lui-même et en lui-même n'est pas impassible, c'est, je trouve, une déclaration extrêmement riche de sens et qui va absolument à contre-courant de la philosophie grecque de l'Antiquité, pour laquelle Dieu, s'il est vraiment Dieu, il est strictement impassible, c'est-à-dire non vulnérable à la souffrance, à la passion. Impassible vient donc du verbe latin qui signifie souffrir, pâtir, le verbe pati qui a donné pâtir en français. Dieu est impassible, ça veut dire il est incapable de souffrir, il n'est pas exposé comme nous à la souffrance. Pour Aristote, par exemple, le plus grand des philosophes grecs de l'Antiquité, il était impensable de dire que le premier moteur de toute chose, Dieu, est exposé à la souffrance. Petite parenthèse, Aristote considérait que Dieu est la source de tout ce qui est en mouvement, en devenir. Il est la source de tout le changement, de tout le devenir qu'il y a dans le monde, mais lui-même est absolument immobile. Il met tout en mouvement en étant lui-même immobile, par l'attraction que sa perfection exerce sur tout ce qui existe dans le monde. Par exemple, les astres, pour Aristote, et ça a duré jusqu'au Moyen-Âge, cette conviction, les astres sont incorruptibles. Ils sont composés d'une autre nature que les quatre éléments de ce monde, l'air, le feu, la terre et l'eau. Ils ont une cinquième nature, une cinquième essence, une quintessence. C'est de là que vient le mot quintessence en français. Ils sont incorruptibles et le seul mouvement qu'ils ont, c'est un mouvement circulaire. C'est-à-dire un mouvement par lequel on ne se déplace pas, puisqu'on revient toujours au même point. Et ainsi, par leur mouvement, les astres rendent gloire à l'éternité et à l'immobilité du premier moteur, par un mouvement qui est un mouvement finalement sans mouvement, celui d'un cercle. Et tout ce qui est en dessous de la Lune est aussi en mouvement. Tout ce qui est en dessous de la Lune, pour Aristote, naît et puis meurt. Mais si les individus meurent, naissent et puis meurent, les espèces demeurent. Les chats individuels naissent et meurent, mais l'espèce féline, elle, imite par son éternité, par sa perpétuité, elle imite l'immobilité du premier moteur. Dieu lui-même est absolument impassible. Inaccessible au changement, inaccessible au mouvement. Alors déclarer, Dieu lui-même n'est pas impassible, c'est de la dynamite dans la métaphysique de l'Antiquité. Et nous savons que, sur le plan moral, l'idéal des Grecs, notamment des Stoïciens, était l'apathie. C'est-à-dire ne pas avoir de passion, ne pas être secoué, envahi par des passions, être absolument british, être absolument flegmatique, à tel point, comme on l'attribue à Épictète, un stoïcien, que si on apprend à un stoïcien que son enfant est mort, il répond « je savais qu'il était mortel ». L'apathie, ne pas être troublé par la misère des passions. Eh bien, cet idéal de l'apathie, de l'apathie, c'est du grec, en latin, l'impassibilité, être impassible ou apathique, c'est la même chose, mais dans deux langues différentes. Cet idéal moral de l'apathie ou de l'impassibilité était aussi projeté en Dieu. Dieu est parfaitement inaccessible à la passion, à la souffrance, à l'émotion. Or, voici que la révélation chrétienne nous invite à revoir ces conceptions métaphysiques. Dieu de la Bible n'est pas impassible, Petite parenthèse, bien sûr, les dieux des Grecs et les dieux des Latins étaient habités par toutes sortes de passions, dont certaines n'étaient pas exemplaires. Mais c'était des passions attribuées anthropomorphiquement à des figures divines mythiques. Tandis que la Bible nous oblige à penser que Dieu est accessible à la passion. Et c'est important pour nous, parce que comment pourrait-il avoir de la compassion pour son peuple ? Compassion signifie être capable de souffrir avec, cum pati. Comment Dieu pourrait-il avoir compassion de son peuple s'il était le premier moteur immobile d'Aristote ? Cela lui serait absolument impossible. Dans l'Ancien Testament, je ne vais bien sûr prendre que quelques passages, parce qu'ils sont innombrables, les passages qui nous parlent de la compassion de Dieu. Je cite le texte classique de Exode 3, le verset 7. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu. » Voilà. Une expression impensable, sinon dans un langage mythique, pour les philosophes grecs. Dieu ne descend pas. Tout aspire à monter vers lui, mais Dieu ne descend pas. C'est incompatible avec sa dignité, avec sa transcendance. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, etc. Ou bien, autre texte classique, Isaïe, chapitre 54, les versets 5 à 10. Ton créateur, Israël, est ton époux. Alors, l'idée que Dieu épouse un peuple, appliquer cette image conjugale très forte à Dieu, et attribuer à Dieu donc la passion d'amour qu'il y a dans le cœur d'un homme pour son épouse, c'est aussi un attentat contre la métaphysique grecque de l'Antiquité. Ton Créateur est ton époux. Le Seigneur des armées est son nom. Le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Lui, comme une femme délaissée et accablée, le Seigneur t'a appelé. Comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissé, ému d'une immense pitié. Et pour la Bible, ce n'est pas un langage simplement imagé, anthropomorphique. C'est comme cela que Dieu est. En vérité, un court instant, je t'avais délaissé, ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Le Dieu de la Bible est un Dieu passionné. Il est tout sauf apathique. Il n'est pas stoïcien. Il est chrétien. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, j'ai eu compassion de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Je jure de ne plus m'irriter contre toi. C'est comme dans un ménage où on se raccommode. Je jure de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer, car les montagnes peuvent s'écarter et les collines chanceler, mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas, dit le Seigneur qui te console. Voilà un Dieu qui qui est rempli de passion. Encore un dernier texte, on ne peut pas les multiplier. C'est un texte tiré du prophète Osée, au chapitre 11e de Osée, les versets 1 à 9. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Mais plus on les appelait, plus ils s'écartaient. Au Baal, ils sacrifiaient. Aux idoles, ils brûlaient de l'encens. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson tout contre leur joue. Je m'inclinais vers lui et je le faisais manger. Il ne reviendra pas au pays d'Égypte, mais Assur sera son roi. Puisqu'il a refusé de revenir à moi, l'épée sévira dans ses villes. Mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle en haut et pas un qui se relève. Mais comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Comment te livrerai-je, Israël ? Comment te traiterai-je comme Adma ? Comment te rendrai-je semblable à Séboïm ? Car mon cœur en moi est bouleversé. Ça, c'est typique de la révélation biblique. Mon cœur en moi est bouleversé et toutes mes entrailles frémissent. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas à nouveau Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Alors ceci est paradoxal, que c'est parce qu'il est Dieu et pas homme qu'il a toute cette passion fidèle et inlassable d'amour. Encore que Dieu ne pourra pas toujours dire « Je suis Dieu et non pas homme ». Un temps viendra, le temps de l'incarnation, où il sera un homme pour l'éternité. Car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le Saint et je ne viendrai pas avec fureur. Admirable. En même temps, certes, le Dieu de la Bible est un Dieu transcendant. Et la Bible n'est pas dupe du langage forcément anthropomorphique qu'elle emploie pour parler de Dieu. En même temps que vous avez, si je puis dire, cette humanité de Dieu, d'un Dieu qui n'est pas impassible, qui n'est pas apathique, qui n'est pas indifférent, qui n'est pas enfermé purement et simplement en lui-même, vous avez le sens de la transcendance de Dieu, que n'avaient pas les religions de l'Antiquité où les dieux étaient des dieux cosmiques, des dieux qui sont entremêlés avec les réalités physiques de ce monde. Le Dieu de la Bible, il est transcendant. Il n'est pas de ce monde, il transcende ce monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si on lui prête des sentiments maternels, les entrailles de Dieu qui se retournent, néanmoins la Bible l'appelle toujours Père. Père et pas Mère. Pourquoi ? Parce que une mère porte la vie de son enfant en elle. Il y a comme une osmose entre elle et l'enfant qu'elle porte. Tandis que le Père donne la vie aussi, mais il donne la vie en demeurant extérieur aux fruits qu'il contribue à engendrer. Et c'est la raison profonde pour laquelle la Bible préfère appeler Dieu Père que Mère. L'image maternelle suggérerait que le monde est intérieur à Dieu et que Dieu est mêlé au monde. L'image paternelle est par contre plus apte à désigner la transcendance d'un Dieu qui fait exister le monde, mais en demeurant extérieur au monde, supérieur au monde, transcendant par rapport au monde. Et donc la Bible, certainement, et la foi chrétienne, et la théologie chrétienne, reconnaît que Dieu, par nature, est impassible. Il n'est pas exposé comme nous à la souffrance et aux passions. En lui-même, par lui-même, il est impassible. Mais le Dieu de la révélation chrétienne est en même temps un Dieu libre, libre, et tellement libre qu'il est libre même à l'égard de sa propre impassibilité de nature. Ça veut dire qu'il est capable librement de se rendre vulnérable à la souffrance et aux passions humaines et à la passion humaine. Et c'est ce qui lui permet d'être librement, c'est un des plus beaux mots du langage chrétien, d'être miséricorde, d'être un cœur qui se rend accessible et vulnérable à la misère humaine. Un cœur, corps, génitif cordis, accessible et vulnérable à la misère humaine, la miséricorde. Le Dieu de la Bible peut être miséricordieux, et il l'est. Et il est capable de compassion en lui-même, par sa nature divine. Il n'est pas exposé à la souffrance, mais il peut librement se rendre vulnérable à la souffrance et donc faire preuve de compassion. Dieu a de la compassion, a compassion de son peuple. Et cela culmine, bien sûr, avec l'incarnation. L'incarnation va pousser à bout cette capacité de miséricorde et de compassion qui est déjà si éloquemment exprimée et présente dans l'Ancien Testament. Et je prends à ce sujet le texte, un des textes clés, qui est dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. C'est une sorte de cantique, d'hymne que Paul a introduit pour illustrer un propos moral. Il recommande aux Corinthiens l'humilité, dans la vie communautaire, d'estimer que les autres sont supérieurs à nous, de faire preuve de modestie, d'humilité, et il illustre cela par un passage d'une richesse théologique inégalable. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine, qui est littéralement, qui est dans la forme de Dieu, dans la condition de Dieu, lui qui est de nature divine, lui qui est de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. J'améliore la traduction. N'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé. Littéralement, en grec, il s'est vidé de lui-même. Il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave. En grec, prenant la forme d'esclave, la nature d'esclave. Donc, lui, de nature divine, il s'est comme vidé de lui-même pour assumer notre nature et notre nature humaine telle qu'elle est maintenant. Ce n'est plus celle de ce que nous appelons familièrement le paradis terrestre, celle de l'harmonie originelle. Ce n'est pas encore celle de la gloire du royaume, du paradis céleste. C'est la nature humaine telle qu'elle est maintenant abîmée, blessée, pas totalement corrompue, mais blessée par le péché et soumise à la souffrance, soumise à la mort, soumise à la vanité, comme dit Paul dans la lettre aux Romains, à la loi, à la servitude de la corruption, comme il dit en Romains 8, verset 21. Prenant la condition d'esclave, la nature humaine dans sa pauvreté, sa précarité, sa déchéance. Et devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé plus encore. Premier abaissement, celui de l'incarnation, celui qui est de condition divine, assume la condition humaine déchue. Second abaissement, il s'est abaissé plus encore, devenant obéissant jusqu'à la mort. Il assume aussi la mort humaine. Et la mort sur une croix, la mort ignominieuse de l'Empire romain, qu'on infligeait qu'aux esclaves ou aux malfaiteurs, mais pas aux citoyens romains. C'est pourquoi, après la descente, une descente à trois niveaux, l'incarnation, la mort, la croix, l'élévation, l'exaltation, la glorification. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom de Kyrios, de Seigneur, le nom divin, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, en français, afin que devant la personne de Jésus, c'est ce qu'on va faire pendant l'adoration, afin qu'au nom de Jésus, ou face à la personne de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous-entendu, y compris l'Empire romain, sur la terre et sous la terre, les puissances infernales, que tout genou fléchisse et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Sous-entendu, ce n'est pas l'empereur de Rome. Le Seigneur, c'est un des innombrables crucifiés de l'Empire romain. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Voilà un texte absolument impensable. Nous, nous y sommes habitués, mais il est absolument impensable pour la philosophie grecque. Comme il était d'ailleurs impensable pour la foi d'Israël, et comme il est aujourd'hui encore impensable pour l'islam, de penser que Jésus soit non seulement un prophète, mais le Fils de Dieu, devenu homme, et mort, crucifié. Vous savez que l'islam pense que Jésus n'est pas, le prophète Jésus n'est pas mort sur la croix. Il était enlevé, c'est un autre qui lui a été substitué. Parce que c'est impensable qu'un prophète connaisse l'insuccès. Alors, a fortiori, penser que Dieu devient homme et homme livré à la mort et à quelle mort, impensable. Et en même temps que la métaphysique chrétienne, si je puis dire, nous oblige à penser cela, à penser un Dieu qui est capable de se dépouiller, d'assumer la nature humaine, de souffrir et de mourir dans l'ignominie, en même temps, nous restons fidèles à ce qu'il y avait de vrai dans la métaphysique des anciens, dans la philosophie des anciens. Nous continuons à dire que le Fils de Dieu est transcendant. Par exemple, nous ne comprenons pas du tout l'incarnation comme étant un enrichissement pour le Verbe éternel, pour le Fils de Dieu. Dieu ne se frotte pas les mains en s'incarnant en disant « Ah, je vais m'enrichir. J'étais déjà Dieu et maintenant je vais devenir un homme. Donc j'accrois mon être. » Non. Tant de philosophies ont pensé cela. Tant de philosophies post-chrétiennes, venant après la révélation chrétienne, tant de philosophies allemandes notamment, ont pensé que par l'incarnation, Dieu devenait mieux Dieu, plus Dieu qu'auparavant. Par l'incarnation, Dieu devient moins que lui-même. Il n'enrichit pas son être, il devient une réalité qui est moindre que la sienne, mais qu'il assume. Il ne s'enrichit pas par l'incarnation, mais il devient librement moins que lui-même, et cela jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Impensable, vous le disais-je pour les Grecs, impensable pour Israël, impensable pour l'islam aujourd'hui, et vraiment typiquement chrétien. Vous connaissez presque par cœur, je pense, ce texte splendide d'Isaïe au chapitre 53 qui décrit le serviteur souffrant. C'est un texte bouleversant quand on l'entend proclamer le Vendredi Saint dans l'office de la Passion. On ne peut pas ne pas être remué jusqu'aux entrailles par un texte pareil qui est comme une sorte de description de la Passion. Alors que ça date de siècles et de siècles avant la passion historique de Jésus. Et jamais Israël n'aurait référé ce texte mystérieux, et qui reste mystérieux pour Israël, jamais il ne l'aurait référé au Messie. Le Messie devait être un Messie de gloire. Et pas ce mystérieux serviteur humilié qui, par son humiliation, procure le salut à la multitude. Et voilà que la foi chrétienne va rapprocher les deux. Et Jésus le premier l'a fait. Jésus a compris qu'il serait Messie à la manière du serviteur souffrant. Qui a cru ce que nous entendions dire ? Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face des lépreux. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous, etc. Et voilà que ce texte, nous l'attribuons à la suite de Jésus lui-même, à la suite de Paul, à la suite des évangiles, nous l'attribuons à celui que nous considérons être le Messie attendu par Israël, et même nous l'attribuons au Fils éternel de Dieu devenu homme dans le temps. Eh bien, c'est une folie d'affirmer une chose pareille. Et Paul y a insisté dans sa première lettre aux Corinthiens, dans un texte rempli de passion, chapitre 1, versets 22 à 24. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, allusion à la philosophie grecque, alors que les Juifs demandent des signes, les signes prodigieux qui, selon lui, devaient accompagner la venue du Messie, alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ça, c'est la découverte chrétienne que la sagesse de Dieu incorpore une folie aux yeux de la sagesse humaine et que la force de Dieu est si forte qu'elle est capable d'incorporer ce qui, à nos yeux, est faiblesse. Alors, il nous suffit alors, mais je pense que Jean-Rodolphe le fera tout à l'heure dans son intervention, de regarder le Christ des Évangiles. Et nous surprenons sur le vif ce que je viens d'aborder d'un point de vue plus théologique, plus doctrinal. Le Jésus des Évangiles est tout sauf stoïcien. Il n'est pas apathique. Il n'est pas impassible. Il exulte de joie à certains moments. Il est en colère. Il promène un regard de colère sur ceux qui sont autour de lui. Il est fatigué. Dans sa passion, il est angoissé. Il est triste à en mourir. Mais il a aussi tous ces sentiments de compassion qui sont le thème de notre réflexion ce matin. Le Christ des Évangiles s'émeut. Il s'émeut en voyant les foules qui sont comme des brebis sans berger. Il s'attendrit sur cette femme qui s'est approchée de lui par derrière pour ne pas dévoiler une maladie un peu honteuse, une perte de sang continuelle depuis 12 ans, et qui vient le toucher par derrière. Et Jésus s'attendrit sur son sort et la guérit. Il a de la compassion quand il voit une veuve qui porte en terre son fils unique. Il est rempli d'émotion quand il voit la manière dont le pharisien humilie cette femme connue pour être une femme publique et qui a pénétré dans la salle où Jésus mange avec le pharisien et qui, vous l'avez médité hier avec l'abbé Racine, qui vient mouiller de ses larmes et essuyer de ses cheveux les pieds de Jésus. Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Et à ce mépris, Jésus répond par une émotion, une tendresse. Et tout cela se résume dans le cœur du Christ. Le cœur du Christ, là aussi je pense que Jean-Rodolphe vous parlera du cœur, et notamment du cœur du Christ, en référence au message de parénémonial. Mais toute cette compassion d'un Dieu qui n'est pas impassible, qui librement s'est rendu vulnérable à la souffrance, à la misère et à la passion humaine, tout cela se résume dans le cœur du Christ. Et donc, merci à Marguerite Marie d'avoir été ici à Paris, le petit instrument de la révélation qui n'était pas nouvelle, mais qui était actualisée pour l'époque et pour notre époque, du cœur du Christ. Parfois, quand des enfants me demandent « Comment pouvons-nous nous représenter Dieu ?» Dieu en lui-même, de toute éternité. Pas facile de se le représenter. Je les invite souvent à se le représenter comme un cœur, plutôt qu'un nuage, ou qu'une équation, ou une radiation, ou des effluves, ou des énergies anonymes. Se le représenter comme un cœur sans limite. Et théologiquement, c'est vrai, parce que Dieu est Trinité. Dieu est à l'intérieur de lui-même, par lui-même, de toute éternité, Dieu est amour. Là aussi, c'est une vérité importante. Tant de religions et de philosophies ont pensé que Dieu est devenu amour en créant le monde. Il était jusque-là, si je puis dire, un célibataire, mais au sens négatif de ce mot, car il y a aussi un sens, comme vous le savez, très positif, une sorte de célibataire éternel, un solitaire éternel, et enfin il est devenu amour et capable de communion en créant en dehors de lui un partenaire, le monde et les anges et les hommes. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce que Dieu est en lui-même comme Trinité amour, un cœur qui bat, le cœur à cœur dans l'Esprit Saint du Père et du Fils, c'est parce que Dieu est amour et cœur en lui-même de toute éternité qu'il est capable de penser et de vouloir la création du monde. C'est parce qu'il est amour qu'il peut et librement décide de créer le monde, et non pas le contraire, qu'il serait devenu enfin amour par la création. Dieu est un cœur où, pour mieux dire, pour évoquer la Trinité, il est de toute éternité un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Mais désormais, par l'incarnation, il y a aussi, et c'est le cœur de Jésus, il y a aussi le cœur humain de Dieu. Ce cœur à cœur, qui est Dieu de toute éternité, bat désormais dans un cœur humain semblable au nôtre. Dans un ancien cantique, on demandait à Jésus de rendre notre cœur semblable au sien, mais c'est possible parce que lui-même s'est donné un cœur semblable au nôtre. Et c'est un cœur comme il n'y en a pas d'autre. C'est un cœur unique. Et je vais terminer par une rapide évocation de ce cœur du Christ. Tout d'abord, c'est un cœur humain et fraternel. C'est un cœur semblable au nôtre. Il est si réconfortant de penser que la plupart des sentiments que nous éprouvons, mais pas ceux qui sont inspirés par le péché, mais tous les autres sentiments qui habitent notre cœur, Jésus les connaît. Et il les connaît de l'intérieur. Il ne les connaît pas seulement de la connaissance que Dieu a de toutes choses, mais il les connaît de par une expérience humaine, comme nous. Donc il sait ce que sont nos colères, dans ce qu'il y a de juste dans une colère. Il sait ce qu'est notre crainte, nos angoisses, nos désirs, nos exultations, nos sentiments tendres. Il connaît tout cela. Donc il nous comprend l'intérieur. C'est un cœur humain. C'est un cœur fraternel. C'est un cœur qui est capable, sans effort, puisque c'est un cœur, de vibrer à tout ce qui nous fait vibrer, pourvu que ce ne soit pas des vibrations inspirées par le péché. Mais toutes les belles vibrations, ou simplement les vibrations liées à notre nature humaine, comme la peur, comme l'angoisse, toutes ces vibrations-là sont les siennes. Il les comprend, et de l'intérieur. Mais en même temps, c'est un cœur qui peut nous rejoindre là où tout cœur humain nous fera défaut. Malgré le grand amour qui peut habiter notre cœur pour une autre personne, nous ne pouvons pas tout. Nous ne pouvons pas être le salut intégral d'un autre être humain. Il y a des limites que nous ne pouvons pas franchir. Même dans l'amour le plus beau, le plus intense, le plus vrai d'un homme et d'une femme, aucun homme ne peut être pour sa femme, aucune épouse pour son mari, le salut intégral de son cœur. Il n'y a que le Créateur qui peut être le salut intégral du cœur humain. Or, dans le cœur de Jésus, nous avons en même temps qu'un cœur humain, fraternel, compatissant, nous avons un cœur divin et tout-puissant. Tout-puissant. Qui pourra nous faire traverser ce qu'aucun cœur humain ne peut nous faire traverser. Le psaume dit « Passerai-je un ravin de ténèbres, Je ne crains aucun mal. Ton bâton, ta houlette et désormais ton cœur sont là qui me rassurent. Et non seulement le cœur de Jésus est un cœur humain et divin, mais c'est un cœur transpercé, un cœur vulnérable, un cœur qui ne fait pas la fine bouche, si j'ose dire, devant nos pauvretés et nos misères, qui ne va pas nous dire, comme le Dieu d'Aristote, « Oh, toutes ces misères, ça fait partie du monde qui est sublunaire, qui est en dessous de la lune. » Mais le Dieu d'Aristote ne connaît pas la souffrance. Aristote allait jusqu'à dire que Dieu ne connaît pas le monde parce qu'il est indigne de Dieu de penser autre chose que lui-même. Dieu ne connaît pas le monde. Le monde ne fait qu'aspirer vers lui, mais lui est si abstraitement transcendant qu'il ne connaît même pas le monde. Eh bien, ce qu'est Dieu, nous le découvrons dans le cœur de Jésus, et c'est un cœur transpercé, vulnérable. J'ose dire, je l'ose parce que c'est vrai, j'ose dire que le cœur de Jésus endure le mal, non seulement avec nous, mais infiniment plus que nous. Reconnaissons que parfois il nous arrive de dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais pendant que il y a tant de souffrances, tant de malheurs? Est-ce que tu serais finalement toi aussi comme Zeus sur l'Olympe, qui du haut de l'Olympe se divertit en contemplant la comédie ou la tragédie humaine? Avouons que cette pensée nous monte parfois dans le cœur. Qu'est-ce que Dieu fait quand nous voyons à la télévision mourir des gens sous nos yeux, et parfois de manière atroce, et la pensée nous vient, mais qu'est-ce qu'il fait dans son Olympe? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il demeure au-dessus de la mêlée? Mais il n'est pas au-dessus de la mêlée. Le cœur humain de Dieu, qu'est le cœur du Christ, endure tout avec nous et plus que nous. Notre souffrance et nos détresses et nos angoisses, et nous pensons surtout à celles des autres, mais enfin, il n'est pas interdit de penser parfois aux siennes propres, elles sont, aussi graves soient-elles, elles sont en quelque sorte, je le dis avec prudence, dérisoires, aucune souffrance n'est dérisoire, mais elles sont peu de choses en comparaison de la souffrance de Dieu. Souffrant de Dieu, je cite un titre d'un ouvrage célèbre de François Varillon, avec les prudences que j'ai dites tout à l'heure, on peut parler de la souffrance de Dieu. Et elle est, quand une créature souffre, Dieu est au cœur de cette souffrance et l'endure avec cette créature et plus que lui. Le cœur de Jésus est transpercé et il est vulnérable. Il est, comme l'a dit Blaise Pascal, en agonie jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps qu'il y a une détresse humaine, aussi longtemps donc que dure l'histoire, Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Mais en même temps, le cœur de Jésus est un cœur ressuscité, un cœur victorieux de tout. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Et donc, avec lui, nous avons non seulement, et c'est déjà une merveille, un Dieu compatissant, qui a compassion de son peuple, mais nous avons un Dieu qui a déjà traversé l'impasse du péché et l'impasse de la mort, et qui nous dit « Courage, dans le monde vous aurez encore à souffrir, mais moi j'ai vaincu le monde, j'ai traversé le monde. » Et c'est ce que nous pouvons contempler dans les quelques minutes qui nous restent, avec ce classique, évidemment, de Parénomonial, qui est la scène admirable de Jean au chapitre 19e, les versets 31 à 37. Un texte inépuisable, et donc je ne vais certainement pas prétendre l'épuiser, mais en dire quelques mots. comme c'était la préparation de la Pâque. Jésus est mort un vendredi, et le lendemain, c'était forcément le sabbat, le samedi, mais le lendemain, c'était aussi la fête de la Pâque juive, la pleine lune de printemps. Et c'est comme ça que par des tables astronomiques, nous pouvons savoir qu'avec presque une totale certitude, Jésus est mort lors de la pleine lune du mois d'avril de l'an 30, le 7 avril de l'an 30. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, c'était en même temps le jour de la Pâque, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât, donc accélérer leur mort. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. La scène est peut-être simplement naturelle. On vérifie qu'il est bien mort par un coup de lance qui traverse la poitrine jusqu'au cœur. Mais Jean attache une grande importance au phénomène physiologique auquel il assiste. Il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyez. Quelle solennité pour attester ce coup de lance, l'ouverture du cœur, le sang et l'eau qui coulent. Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. C'est ce qui était dit de l'agneau pascal. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Alors Jean est impressionné par cette scène, tout d'abord parce que quand il l'a reméditée des années plus tard, elle était riche de multiples réminiscences bibliques. Jean s'est souvenu tout d'abord de l'épisode qu'il a raconté au chapitre 2e de son évangile, quand Jésus dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Alors, les auditeurs pensent qu'il parle du temple qu'on venait tout juste de restaurer, et on y avait travaillé pendant 46 ans, alors toi, en 3 jours, tu vas le relever. Mais il parlait du temple de son corps. Jean se souvient que le corps de Jésus, c'est désormais le temple où Dieu habite en personne. Il se souvient d'Ézéchiel 47, où le prophète en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, en exil, a vu le temple à Jérusalem, une vision de bonheur. Quand on est en Irak, voir le temple de Jérusalem dans une vision, c'est une vision de bonheur. Et il a vu que dessous le temple et du côté droit du temple, une petite source commençait à couler, mais qui s'amplifiait, malgré sa modestie initiale, s'amplifiait, devenant un ruisseau et puis un fleuve, dont les eaux lui montent d'abord jusqu'aux chevilles, et puis jusqu'aux mollets, et puis jusqu'aux reins, un fleuve impétueux qui sème la vie sur son passage. Et Jean se souvient. Il voit lui aussi un petit peu d'eau et de sang qui coule. Et on comprend pourquoi on met toujours la plaie du côté droit et pas du côté du cœur, suggérant que la lance a traversé la poitrine depuis la droite jusqu'au cœur. Pourquoi la droite ? Parce que c'est du côté droit du temple qu'Ézéchiel avait vu l'eau couler. Jean se souvient, et il se souvient aussi bien sûr du fleuve à 4 bras qui traversait le paradis terrestre, mais il se souvient également de Jésus parlant à la Samaritaine et lui disant « L'eau que moi je donnerai sera comme une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et il se souvient du cri que Jésus a poussé sur le temple, sur le parvis du temple, au plus grand jour de la fête. Chapitre 7 de l'évangile de Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Car comme dit l'Écriture, et c'est l'évangéliste qui commente, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et Jean comprend, et ça le remplit de gratitude, que cette petite source qui coule du cœur transpercé de Jésus, elle va devenir un fleuve aussi puissant que celui qu'Ézéchiel avait vu. Et on retrouve effectivement ce fleuve dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 22e, quand le voyant voit le ciel ouvert et le trône sur lequel siège Dieu, le Père, et l'agneau, égorgé, mais debout, mort, mais ressuscité. Et voici que procédant de Dieu et de l'agneau, comme l'Esprit qui procède du Père et du Fils, ou du Père par le Fils, coule du trône un fleuve, le fleuve de l'Esprit-Saint, le fleuve de l'Église, le fleuve des sacrements qui donnent la vie. Et pour décrire ce fleuve, l'Apocalypse reprend Ézéchiel 47, un fleuve qui distribue la vie, qui fait fructifier les arbres 12 fois par an, et dont les feuilles guérissent à jamais les païens. Et Jean est ému par cela, mais il est ému, et c'est ma conclusion, plus encore peut-être, parce que d'où coule cette source ? Elle coule de l'ultime blessure qui a été infligée au corps de Jésus après même qu'il fût mort. Une blessure gratuite, une blessure en un sens inutile, pour autant qu'il y en ait d'utile. Blessé à mort, c'est la dernière blessure qui a été infligée à l'humanité du Christ, et quelle est la vengeance de l'amour ainsi blessé ? Son unique vengeance est d'ouvrir une source de miséricorde. Dieu a compassion de son peuple. Et cette compassion, elle est incarnée, concentrée, résumée dans le cœur humain de Dieu qu'est le cœur du Christ. Et c'est un cœur qui est si compatissant que même quand nous le blessons et que nous le blessons gratuitement, sa compassion va jusqu'à, à travers cette blessure même, ouvrir une source de vie, une source de régénération, une source de réconciliation. Merci à Marguerite Marie d'avoir été à Paris l'instrument de la révélation du cœur du Christ. Mais je voudrais remercier aussi une Belge, enfin la Belgique n'existait pas à l'époque, mais Julienne de Cornillon, qui a été le petit instrument, une femme aussi. C'est assez révélateur que ce soit deux femmes qui aient été l'instrument de la révélation de la compassion de Dieu. Elle était l'instrument de l'instauration de la fête Dieu, de la fête du Saint-Sacrement, vouée à la célébration et à l'adoration de l'Eucharistie. Et c'est un grand trésor dont Julienne a été l'instrument. Elle nous a permis de mieux comprendre à travers la fête Dieu, mieux comprendre que ce cœur humain de Dieu, ce cœur plein de compassion qu'est le cœur de Jésus, il bat littéralement dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie célébrée et dans l'Eucharistie adorée. Donc nous reviendrons cet après-midi sur la question et les questions liées à l'adoration. Mais je tiens à dire dès maintenant que l'adoration de l'Eucharistie, qui a toujours un lien avec la célébration de l'Eucharistie, bien entendu, l'adoration de l'Eucharistie est plus qu'une dévotion. Enfin, c'est une dévotion au sens étymologique du mot. C'est adorer l'Eucharistie, c'est un acte par lequel nous nous vouons, nous nous donnons, nous nous exposons à l'amour de Dieu. Mais si on entend par dévotion une dévotionnette, une bigoterie ou une bondieuserie, alors l'adoration du Saint-Sacrement, elle n'est pas du tout une petite dévotion marginale, périphérique. Elle est auprès du centre, car le centre de toute la révélation est comme un grand ostensoir, un bel ostensoir baroque ou rococo qui est parfois très 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 grand. Mais toute la luxuriance de son cisaillement, de son orfèvrerie, toute la luxuriance n'a de sens qu'en référence au centre, occupé modestement par une petite hostie. Eh bien, au centre du grand ostensoir de la révélation, avec la Trinité, la résurrection, la virginité de Marie, le don gratuit de la grâce, enfin, tout le dogme catholique, il a au centre le cœur humain de Dieu qu'est le cœur du Christ. Et comme ce cœur bat dans l'Eucharistie, au centre de la révélation, il y a l'amour de l'Eucharistie célébré et de l'Eucharistie adoré. Et loin d'être une dévotion périphérique, c'est une dévotion qui vise le centre et qui accueille le cœur même de la révélation. Nous y reviendrons cet après-midi.